Ville Monde. Sur la route d'Amsterdam, après l'Asie, Séoul vers la mer Jaune, cap à l'ouest vers la mer du Nord, dans le port d'Amsterdam, ville sur l'eau, aux Pays-Bas, pays singulier, noyé dans les brumes de notre Nord et qu'on pourrait appeler l'Orient de l'Occident, écrivait Baudelaire, tant la chaude fantaisie s'y est donnée. Ville Monde, Amsterdam, première escale. Bon voyage sur France Culture sans frontières.
Amsterdam, Werelddorp.
Ville Monde, Amsterdam. Gezellig, forcément gezellig. Olivier Chaumel, Rafik Zenine.
Goedemiddag jongens en meisjes, dames en heren. Willen jullie allemaal even een beetje bij elkaar gaan staan dat er nog een paar mensen mee kunnen? Nogmaals bedankt voor de medewerking. We dicht tegen elkaar aan kruipen alsjeblieft.
Maar het is letterlijk hoe dus...
Littéralement, la ville d'Amsterdam est construite selon une structure circulaire, avec les canaux qui, avec leur courbure, forment un peu comme une empreinte digitale.
Passe ici devant les trains. Le Thalys à Paris, le train à Francfort, Utrecht, Maastricht au sud. Tous les trains qui passent, tandis que pendant la nuit, les trains de marchandises passent. Et ce bruit, j'adore.
Je crois qu'il y a quand même un esprit d'Amsterdam, une ville cosmopolite, une ville de liberté.
Odile Chenal, ancienne directrice de la Fondation européenne pour la culture.
J'habite à Amsterdam, mais je ne suis pas sûre que j'aurais habité aux Pays-Bas, dans une petite ville, parce qu'il y a quand même, c'est une combinaison assez rare d'une ville à dimension humaine. Elle est petite, un village, et c'est cosmopolite aussi. Et ça, c'est une ville très, très créative, avec beaucoup de dynamisme. Je veux bien parler de ses défauts aussi, mais cette ville a beaucoup de qualités. Nous sommes ici au Musikgebouw aan het IJ. C'est un mot très compliqué, c'est-à-dire le centre de musique qui est sur le fleuve qui s'appelle l'IJ, donc avec une vaste ouverture sur l'eau. Et c'est très spécifique du développement de la ville dans les 10 dernières années. Parce que la ville était fermée par la gare que vous voyez là un peu plus loin. Il y avait le vieux centre, il y avait le sud, l'est, l'ouest. Mais le nord était un quartier où on n'allait pas parce qu'il fallait traverser l'eau. Il y avait des bacs, mais relativement peu. Et le nord était un quartier industriel, ouvrier. Et depuis, au cours des 10 dernières années, il y a tout un programme, ou même des 15 dernières années, un programme d'aménagement des deux rives de l'Ay, donc au bord de l'eau, ici, avec ce Musikgebouw, ce centre culturel, avec le Beamhuis, donc le centre bien connu pour le jazz, et puis différents bâtiments qui ont été mis à la disponibilité de créateurs, de petits entrepreneurs, designers, etc. Donc c'est devenu un centre un peu de l'innovation. Et de l'autre côté, on a essayé d'ouvrir sur le nord pour réintégrer le nord dans la ville.
Donc, faire en sorte que les deux rives cessent de tourner le dos, en quelque sorte.
Voilà, exactement. Et que le nord fasse partie vraiment d'Amsterdam. Et quand on va maintenant vers le nord aussi, c'est devenu un quartier très dynamique, très créatif, avec beaucoup d'innovation, de loft, etc. Il n'en reste pas moins qu'il y a quand même toute une population... ouvrière, enfin une population, une des classes laborieuses qui habitent au nord et que le mélange ne se fait pas instantanément. Mais ça a été pour moi changement le plus fascinant que j'ai vu dans cette ville, comment elle a réintégré la partie nord.
Pardon.
Les cyclistes peuvent être assez agressifs à Amsterdam. Il vaut mieux se mettre sur le trottoir.
À l'écart. C'est vrai qu'on a l'impression que les cyclistes ont tous les droits et qu'on, en tant que piéton, on gêne.
Oui, c'est vrai. Moi aussi, je suis très intolérante quand je suis à vélo.
On se trouve sur le Marbrug, c'est ça ? C'est un pont dont l'image est très connue. C'est un peu l'entrée de la vieille ville d'Amsterdam par la rivière Amstel.
Oui, on le voit dans un film de James Bond. Les diamants sont éternels. À l'origine, il est construit par deux sœurs qui habitaient chacune d'un côté du fleuve et qui ont voulu avoir leur propre pont parce qu'elles ne voulaient plus faire de longs détours. Mais il a été reconstruit. Auparavant, il était encore plus maigre. Plusieurs fois, il a été remis en état. Ils l'ont élargi peu à peu.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi cet endroit, Roberta Peltzold?
Je fais souvent des détours en vélo pour passer par ici. Je m'inventais de bonnes raisons de passer par ici à l'époque où je n'habitais pas le quartier. Je me demande pourquoi. Je pense que c'est un endroit parfait pour ce qui est de la vue sur Amsterdam. Ça respire quelque chose du passé, quelque chose de médiéval. Quelque chose qui vient d'un autre temps, par quoi on se retrouve véritablement dans une sorte de faille temporelle. On voit l'Ermitage là, le grand musée, et Carré là, d'où on a une vue spectaculaire. Et là, vous voyez aussi un cerf-volant, qui est un élément du Festival des Lumières d'Amsterdam, qu'on peut voir partout dans la ville. Ça a lieu pendant les mois où les nuits sont longues. Il y a partout des œuvres lumineuses que je trouve exécutées de façon très grossière d'ailleurs, en général.
Pour quelle raison ?
Oui, c'est souvent un peu balourd. C'est du plastique et, comment dire, c'est fait avec des imprimantes 3D.
La plus petite des grandes métropoles. Ainsi, le géographe qualifie-t-il Amsterdam. Il a raison, on n'y compte guère que 800 000 habitants, mais la ville est complète, comme un New York ou un Shanghai, en petit. Il y a de multiples raisons de se rendre à Amsterdam. Un week-end en amoureux, faire l'emplette d'un oignon de tulipe ou d'un bout de haschich, visiter des musées sublimes, écouter du bon jazz, retrouver une copine hollandaise rencontrée à la bibliothèque, ou tout ça à la fois. La raison principale, c'est que cette ville est diablement séduisante. Sa beauté est évidente de face quand on s'y promène au petit bonheur. Mais Amsterdam est tout aussi belle de dos. Du côté des jardins intérieurs que le touriste ne voit jamais, sauf aux journées portes ouvertes du mois de juin ou parfois depuis le ciel, à la descente vers l'aéroport de Schiphol. Du côté du béguinage, qui est un incroyable enclos de silence à quelques mètres de l'artère commerçante la plus grouillante d'Amsterdam. Depuis les nouveaux quartiers, le nord portuaire devenu branché, Heiburg à l'est, avec ses maisons flottantes qui jamais ne navigueront, mais qui sont labellisées durables et vertes. On aime bien que tout aille bien à Amsterdam, que la tranquillité soit assurée, laquelle ne va pas sans une discrète excentricité très inventive et débridée.
Le bâtiment est de 1659.
Christ Brouwer, amoureux d'Amsterdam.
Et il s'appelle donc Dont, le chien. Et c'est parce que les anciens habitants avaient des chiens.
Et la plupart des maisons portent un nom, pour peu qu'elles soient anciennes.
Oui, parce que ça reflétait ou bien comment ils gagnaient leur argent, ou bien ce qu'ils aimaient très bien, etc. Donc on le voit souvent encore dans les maisons anciennes. Donc là, c'est vraiment toutes des maisons étroites. Et souvent, j'ai des Français qui me disent ben, c'est des maisons de poupées, tellement que c'est étroit, avec des escaliers qui sont très raides. Et donc, bien qu'on aime picoler un peu, il faut savoir qu'il faut après monter les escaliers. Donc, c'est pas toujours...
Ou les descendre.
Ou les descendre. Mais monter, c'est déjà un peu plus... Donc là, on va sortir, je vais montrer un peu pourquoi j'adore Amsterdam. Parce qu'en fait, c'est en elle-même, le centre, c'est un musée. mais en même temps, la vie quotidienne passe dans ce musée comme si ce n'était pas un musée, en fait. Parce qu'on a de tout ici. On a des gens qui squattent, beaucoup d'étudiants. En plus, c'est très international. Mais on a toujours beaucoup de familles avec des enfants qui vivent dans des appartements ici en pleine ville. Et donc, la preuve, il y a une école juste en face avec tous les petits-enfants qui viennent avec leur petit vélo, avec leur petite casquette. On les voit tous les matins. Ça me fait beaucoup plaisir. Après. On va sortir.
Vous ne fermez pas dehors.
Voilà. Parce qu'il n'y a personne aujourd'hui. On va passer là. Voilà.
On se trouve sur Brauerstracht avec Rist Brauer.
Et Brauer, ça veut dire brasseur.
Vous nous emmenez où là, Rist Brauer?
Là, je vais vous amener à Nordermarkt. Et là, c'est un de mes coins préférés. Parce que c'est un peu plus ouvert ici. Et surtout, il y a le marché donc le samedi. Et aussi le lundi matin avec le marché aux puces. Et vraiment, si on vient ici un jour de marché, on voit bien la population d'Amsterdam. Parce qu'on a, de tout. On a des gens qui viennent de Turquie, des Marocains, des étudiants, des touristes. Des gens qui vivent ici, des professionnels dans. Parce qu'il y a les banquiers, les avocatures, etc. Tous aussi vivent ici. Donc c'est, je pense, un très bon mélange. Il y a un mot pour ça en néerlandais. Je ne sais pas si vous avez déjà quelqu'un d'autre qui vous l'a dit. Ça s'appelle gezellig, pour dire que on est bien chez soi, on est entre amis. Et je pense que la ville aussi, c'est une ville où on se sent gezellig.
Nee, maar ik vind wel even mensen maar doorkennen, want ze willen bij mij altijd vragen.
Zij moeten bij jou ook achterbij jasjes kunnen kijken. Dus dat gaat.
Ceci est un brun café. Un café brun. Et pourquoi brun? Eh bien, non seulement en raison de la couleur sombre des tables et des chaises vernies, mais surtout de celle des murs, qui jadis ont dû être blancs ou beiges et qui aujourd'hui sont d'une teinte qui avoisine l'ocre foncé. Pour obtenir cette coloration transparente, ce glacis sans pareil, il a fallu des camions entiers de cigares et de cigarettes fumés par des milliers de clients pendant des dizaines d'années. C'est dire la valeur inestimable d'une telle finition au goudron, beaucoup plus difficile à obtenir que la plus délicate des lacs orientales. Chaque fidèle de l'établissement a ainsi investi dans la précieuse décoration de son bistrot familier. Il a fallu résister 1000 fois à la tentation de laver à grande eau les murs et le plafond, calfatés comme une embarcation par un demi-siècle de tabagie. Pierre-Jean Brassac, Le royaume qui porte l'eau à la mer, 2003.
C'est un de mes restaurants préférés, un restaurant italien, parce que vous savez que la cuisine néerlandaise, pour tous les Français, c'est pas tellement le truc, quoi. Notre truc.
Il faut y avoir goûté quand même.
Oui, il faut y avoir goûté, mais c'est...
Qu'est-ce que vous mangerez à midi, là, Rist Brauer?
Là, à midi, comme tous les Hollandais, mais ce n'est pas mon plat préféré. On mange des sandwichs avec un verre de lait. Et en fait, on ne dépense pas trop ni d'argent, d'ailleurs, mais ni de temps à un déjeuner.
Je me souviens qu'il y avait un peu partout dans Amsterdam des petits kiosques où on pouvait prendre des sandwichs au hareng fumé, à l'anguille fumée.
Oui, il y en a là, il y en a deux, là, je vais vous montrer.
Je pensais que ça avait un peu disparu. Non,
c'est toujours là.
Et la question, c'est avec ou sans oignon?
Voilà, on va. Et là, je vais vous inviter à manger un hareng.
J'ai senti des odeurs suspectes.
On sent bien l'odeur. Dans toutes les rues de magasins, on sent très bien l'odeur du hachis. Et des coffee shops 2 ou 3 là, juste à l'un côté.
Et ça reste un peu mal vu, la consommation de cannabis
C'est pas quelque chose que je recommanderais à mes enfants, mais s'ils veulent essayer, qu'ils essayent. Moi-même, je ne fume même pas. Mais j'ai essayé une fois dans un space cake, ça ne m'a pas plu.
Qu'est-ce qui s'est passé?
J'ai pris pour 2 ou 3 personnes et j'étais complètement raide pendant 2 jours. et j'ai jamais repris. Donc j'ai essayé une fois et puis ça m'a suffi. Alors c'est bon, on est prêt pour la rang. Hein. C'est là, vous disiez, les... en plus, à côté d'une cabane de fleurs avec des tulipes, on va manger un aran. Alors, vous voulez sur du pain ou vous voulez avec des oignons? Comment vous le voulez?
Regardez un peu ce qu'il y a.
Il faut essayer, hein.
Il y a plusieurs sortes.
Il y a plusieurs
sortes. Ça, ça a l'air fumé.
Ça, c'est fumé. Et ça, c'est du cru. Et ça, c'est du cru. On va prendre un, quand même.
J'ai le droit de prendre de l'anguille.
Oui, oui, absolument. Ouais. Absolument, absolument. Harmbroek je met...
Met gehakte haring?
Ja, met gehakte haring. En een broodje met paling.
En op de gehakte haring, wilt u de uitjes verzuren?
Twee met paling, alsjeblieft.
On mange ça debout.
Oui. Alors là, on... Juste... en face de nous, juste à côté de la gare centrale, il y a du parking pour les vélos. Et je ne sais pas si vous avez...
Un gigantesque parking à vélo.
Gigantesque à vélo.
Une estimation du nombre de vélos garés là, restaurant.
Je dirais... ah oui, des milliers. Peut-être 10, 10 000. Un truc comme ça. Oui. Oui, peut-être même plus. Hein.
J'adore habiter ici parce que quand on sort... On sent l'air frais.
Rudy Wester, ancienne directrice de l'Institut néerlandais à Paris.
On sent un peu l'eau aussi, la mer ici, parce que, enfin, maintenant, ils ont disparu, mais il y a toujours, comment ça s'appelle, les seagulls, les oiseaux blancs qui crient toujours. Mais donc, j'aime bien cet air, je dois dire.
C'est assez exotique le quartier où vous habitez, Rudy Wester. En bas, j'ai vu l'autobus numéro 48 qui a pour destination Borneo Island.
Oui.
Et l'île qui est en face de nous s'appelle Java, c'est-à-dire Java.
Voilà, hein. C'est ça, c'est Java. C'est, enfin, Indonésie a été une de nos anciennes colonies. Je n'ose presque plus le dire, en effet, mais c'était comme ça. On était vraiment un grand empire dans le XVIIe siècle, siècle d'or. Et puis, on a déjà bâti en XVIIIe siècle, on a fait toutes ces îles artificielles pour le porc, pour les denrées, pour la soie qu'on importait ici aux Pays-Bas et tout ça, tous les denrées d'Indonésie, du monde entier. Et puis, on a nommé ces îles après, en effet, notre ancienne colonie, Java, c'est une partie d'Indonésie. Bornéo, c'est aussi une île en Indonésie. Enfin, il y a 10 000 îles en Indonésie.
Comment s'appelle ce quartier, Rudy Wester?
Ce quartier s'appelle de Oostelijke Handelskade. Non, c'est le quartier de l'Est. C'était l'ancien port d'Amsterdam. Donc c'est le port que Jacques Prélat chantait, hein, le port d'Amsterdam. Donc tous les entrepôts ont été utilisés après que le port a perdu sa fonction. Enfin, après la Deuxième Guerre mondiale, parce que les bateaux sont devenus de plus en plus grands. Donc alors, on a bâti un autre port à l'ouest d'Amsterdam. Ici, c'est l'est.
Le long du canal de la mer du Nord.
Voilà, c'est ça, exactement.
C'est assez loin, d'ailleurs.
C'est assez loin, mais c'est mieux pour les bateaux, en effet. Parce que, enfin, il faut naviguer assez bien pour arriver ici. Mais donc, ça a été l'ancien port d'Amsterdam. Et puis, en effet, c'était, comme toujours... autour des ports, plein de petits cafés, plein de squatters, plein d'artistes et tout ça. C'était très moche, tout ça. Et puis alors, l'architecte en chef d'Amsterdam, de la ville d'Amsterdam, a déjà pensé en 1995 à remplir ces îles artificielles avec des maisons à habiter. Donc ici, c'est Amsterdam en petit parce que l'architecte a construit des petits canaux.
Dans quel but?
On a fait ces canaux parce que les maisons qui donnent sur les canaux n'ont ni le soleil, parce qu'ici c'est au sud, ni de vue panoramique sur la rivière comme nous avons, ni la vue panoramique sur l'autre bras de la rivière. Donc il n'y avait rien, sauf l'eau de canal devant eux. Et là, ils peuvent garer leur bateau et tout ça. C'est un but aussi très logique au cœur de l'Irlandais, trouver des compromis toujours.
Muziekgebouw. Vergeet u straks niet uit te checken. Please remember to check out.
On est un jour de grand vent au National et on entend dans les. Les structures du Musikgebouw, de la maison de la musique, au bord du bras de mer Ley, le vent qui, peut-être à cause de la structure cubique des bâtiments, contourne l'ouvrage.
Oui, je pense aussi que c'est les structures en fer, je pense. Oui. Heureusement, à l'intérieur de la salle de concert, on n'entend pas. Mais c'est vrai qu'on apprend à vivre avec le vent. On aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime bien, mais...
Ça nous rappelle que la cité est maritime.
Et ce qu'on oublie, c'est effectivement, l'eau est partout dans la ville, mais on ne sent pas vraiment que c'est un port. Le port industriel est plus loin. Là, ce qui est toujours très impressionnant, comme on le voit à Venise ou dans d'autres villes, c'est qu'il arrive de temps en temps des navires de croisière, et le terminal de croisière est juste là à côté, qui sont gigantesques, avec... des milliers de personnes à bord et qui partent, qui sortent là, on les voit, et qui vont vers le centre de la ville. Et ça, c'est toujours... Il y a quelque chose de disproportionné dans ces navires de croisière qui arrivent dans les villes comme ça. Regardez comme c'est beau. Il y a des canoës là.
Et une lumière hollandaise.
Une lumière hollandaise, oui, on a une belle journée. Oui, oui.
Nederlandse dok- en scheepsbouwwerf.
Maatschappij.
Oui.
Ce qui veut dire société oui. Néerlandaise de construction navale et des docks.
Oui, c'est ça.
Très étonnant ce café fait de conteneurs. Tout de même,
oui.
Où les gens viennent en nombre avec leurs enfants.
Oui.
C'est un peu une façon d'échapper aux nuisances du
oui.
tourisme en
oui.
centre-ville.
Oui, c'est ça. C'est plus calme ici en nord. On se retrouve pas entouré par des touristes. Donc ça, c'est bien. Je pense que c'est assez pour beaucoup de Néerlandais intéressant. Ouais.
Oui.
Oui.
Et ça, vous ressentez ça comme ça, Lisa Ramp, l'accroissement de la pression touristique?
Moi, j'évite le centre-ville dans le week-end, oui. Quand moi, je me dis j'ai envie d'aller boire un verre dans un café, je ne fais pas dans le centre. Je fais plutôt à l'est d'Amsterdam, c'est très upcoming. Et aussi le nord, donc c'est convivial, c'est bien. Ouais. Mais ici, il n'y a personne qui habite. Sauf que là, il y a des containers, je ne sais pas le mot en français.
Containers.
Containers, oui. Et ce sont des maisons pour des étudiants. Donc, ils ont un petit container et il faut mettre un lit, un petit cuisine. Et ça, c'est une maison pour des étudiants. Donc, c'est assez drôle.
On fait vivre les étudiants dans des boîtes.
Oui.
Les gens d'Amsterdam, de la rive sud,
oui.
Aiment bien venir ici.
Oui, ils aiment bien, plutôt pendant l'été, parce que c'est plus fluvial ici.
Et les carcasses de tramway des années ouais. 50, là.
Oui.
Une grue de chantier, un trois mâts.
Et ça, c'est un hôtel, en fait, mais il y a trois.
Dans la grue?
Oui, c'est assez cher.
C'est une authentique ancienne grue de chantier.
Oui, et maintenant, ils ont construit un hôtel dedans.
Ouais.
Oui. crâne.
Beaucoup de fantaisie hein, chez les Néerlandais.
Ouais,
d'inventivité.
Ouais, c'est vraiment un endroit de créativité, des artistes et de l'art en fait. Donc ça, ouais. C'est bien. Ouais. Ouais. Aussi, pendant l'été, par exemple, ils font un petit plage. Et donc c'est pour ça que c'est aussi attirant pendant l'été, parce qu'on peut se baigner dans l'ail. Il y a plusieurs gens qui font ça.
Vous voulez marcher à l'autre côté aussi
pour pourquoi pas
voir un peu la rivière.
Il y a un remorqueur qui passe.
Oui, il y a pas mal de bateaux qui passent, en effet, qui fonctionnent pour le commerce, bien sûr. Donc, toujours pour les bacs, c'est difficile à naviguer, vous voyez. Mais vous voyez, là, c'est le pont.
C'est difficile parce qu'il faut que les bacs se faufilent entre les bateaux de commerce.
Mais oui, voilà, c'est ça. Et cette vue superbe, je trouve. Enfin, moi, j'adore l'eau, la rivière, des lacs, la mer. Donc, ici, il y a... Je me sens chez moi, à côté de la mer.
Très néerlandais, oui.
Très néerlandais, en effet. Il faut se promener là-bas. Ici, c'est pour les bicyclettes.
Ah, pardon. Chacun a sa place.
Oui, il ne faut pas être renversé à Amsterdam par une bicyclette. Ça serait dommage.
Et là-bas, il y a des bateaux de haute mer aussi.
Mais oui, parce qu'il y a des écluses. Donc, ils peuvent aller partout.
Mon petit domaine, hein. Donc partie classique, partie nouveauté, enfant.
Le temps retrouvé, ça s'appelle votre librairie,
oui.
Claire Pascal Bruno.
Voilà.
Qu'est-ce qui vous a pris d'ouvrir une librairie française à Amsterdam ?
Ben, c'est une question... en fait, c'est assez simple. Mon épouse est néerlandaise, et donc on avait le projet de revenir, ou plutôt de venir s'installer ici. Et moi, donc, j'ai toujours été passionné par les livres. Et quand je suis arrivé, donc on s'est installé il y a à peu près 2 ans et demi, presque maintenant. Et j'ai fait le simple constat qu'il n'y avait pas ou plus de librairie française. Et donc, quand on a pris cette maison, il y avait un petit commerce en bas. Et je me suis dit, voilà ce que je dois faire.
Je me suis toujours demandé, pourquoi est-ce que... Là, on est en demi-sous-sol. Enfin, il y a quelques marches à descendre.
Oui, tout à fait.
Et pour accéder au rez-de-chaussée qui est un demi-premier étage, il y a quelques marches à monter.
Oui.
Vous connaissez l'explication de cette structure-là ?
Ben, en fait, c'est lié. Alors, c'est une explication. C'est lié à l'activité de commerce, c'est-à-dire que les commerces étaient un peu en cour anglaise. Donc, vous voyez, ici, on est à peu près à, je dirais, un petit mètre hein, du niveau du sol. Donc, on descend effectivement 2-3 marches. Et ce qui est amusant, c'est que cette partie porte un nom français, il s'appelle le souterrain. Souterrain, alors c'est pas souterrain, mais c'est plus proche des cours anglais, c'est-à-dire qu'on est effectivement à peu près 1 mètre en dessous du niveau de la rue.
Mais voilà. On dit comme ça en
français
dans
le texte. Ça s'appelle le souterrain, d'ailleurs c'est écrit sur la porte, et les Néerlandais prononcent ça le sous. Donc, et au début, je veux dire que le mot était assez incompréhensible, le sous, et en fait ça vient de souterrain en français dans le texte, voilà. Et l'étage au-dessus s'appelait le bel étage, aussi en français. Voilà. Donc ça, c'est cette maison date du 17e. Et toutes les maisons, une grande partie des maisons quand même ont été conservées. Au moins la façade en l'état.
Et elle a eu au moins un habitant très prestigieux.
Tout à fait, c'est un hasard des choses. Il y a John Adams, qui était le second président des États-Unis, et surtout le premier ambassadeur des États-Unis, et qui a installé donc sa résidence ici pendant à peu près une année. Et il est arrivé en fait en Europe avec Benjamin Franklin pour lever des fonds pour financer la guerre d'indépendance contre les Anglais. Et avait comme lettre de créance donc la première qualité, la première fonction, donc le premier ambassadeur des États-Unis. Et on voit régulièrement donc des touristes américains. John Adams, I can't believe it, it's awesome, etc. C'est toujours les mêmes expressions. Et alors après, ils entrent dans la librairie et je n'ai évidemment rien sur John Adams. Donc...
Donc, au rêveur. Vous êtes conservateur et directeur du musée Van Loon, qui est la propriété d'une famille qui a participé à la fondation de la Compagnie des Indes orientales. Oui. Quand on se promène à Amsterdam, on voit les canaux, hein, ça peut échapper à personne, mais assez peu de verdure, à part le Vondelpark, qui est un très grand jardin public. Et en réalité, si on pouvait voler, on verrait que c'est une ville très verte, beaucoup plus que ce qu'on en perçoit depuis les avenues et les canaux.
Oui, c'est ça. Amsterdam est une ville peut-être le plus vert du monde, mais on ne peut pas voir parce que les jardins sont à l'autre côté de la maison en canot et qu'on est complètement caché par la maison et on ne peut pas voir les jardins d'Amsterdam. Mais il est là et c'est très vert à Amsterdam. Il y a beaucoup de jardins. Et les jardins sont encore protégés par la loi du XVIIe siècle. C'est interdit de bâtir ou de faire des choses commerciales au jardin d'Amsterdam. Et comme ça, les jardins sont encore là.
Donc on dit Achtertuin, c'est ça?
Oui, c'est Achtertuin, il y a Achtertuin derrière la maison. Oui.
Vous décrivez celui-ci, tant qu'on rêve, hein?
Le jardin ici s'est inspiré par une vieille carte de ville d'Amsterdam. Et l'autre côté, c'est l'écurie. Hein, la plupart des gens pensent que c'est un petit pavillon à l'autre côté, mais ce n'est pas vrai. C'est vraiment l'écurie, c'est un bâtiment très pratique. À l'autre côté, il y a une petite rue, le Kerkstraat, et par là, les carrosses peuvent entrer et sortir. Mais c'est complètement caché par une façade très spectaculaire, mais c'est une façade faux.
La maison s'ouvre sur le Kaiserstraat.
Oui.
Il n'y a pas de porche côté canal.
Non. Mais ici, c'est la façade. Cette façade est très impressionnante, mais c'est faux. Parce qu'au deuxième étage, c'était le chauffeur qui habite là-bas, et comme ça la famille n'a pas l'intérêt que le chauffeur peut regarder au jardin, comme ça c'est pas de fenêtre, et c'était le garage pour la carrosse de l'autre côté.
Ouais. Il y a quelle distance entre le Kaiserstraat et la Kerkstraat?
C'est presque, je crois, la maison c'est 15 mètres
large,
et comme ça c'est peut-être 100 mètres.
La prochaine étape, ton rêveur, c'est
On visitait le Kaiserstraat, après le Heergracht, et à ce moment, on va visiter le Prinsengracht. Comme ça, les maisons au Heergracht sont le plus grand. Après, c'est le Kaiserstraat et le Prinsengracht. Les maisons sont plus petites, mais c'est très charmant. C'est vraiment, je crois, le rêve de tous les Amsterdam, les gens qui habitent à Amsterdam, de posséder une petite maison en canot au Prinsengracht. C'est formidable. À ce moment, les gens disent c'est important combien de fenêtres au canot. Ça, c'est la chose plus fondée. Il y a des maisons avec deux fenêtres, avec trois fenêtres. Comme ça, on compte les fenêtres.
C'est l'unité de mesure.
Yeah. Je crois la qualité de vie à Amsterdam.
Ah, non, merde. Qu'est-ce qui s'est passé?
Non, c'était l'idée de...
Un peu de guano.
agréable. Je crois que la qualité de vie est très haute à Amsterdam, parce que c'est une ville avec beaucoup de culture. Nous avons le concertgebouw, le théâtre municipal, beaucoup de musées, avec une qualité d'un village. Parce qu'on connaît tous les gens et c'est agréable avec des bicyclettes.
C'est la Kerkstraat ici?
Ja, Kerkstraat, ja. Even kijken, een moment. Je crois que c'est le plus facile de sonner ici. C'est une maison totalement privée. J'espère qu'elle était là. Hi!
Oh, hi!
Het is radio, schrik niet. Het is radio. Mag ik met jou...
Kom maar in. Ja? Kom maar in. Goedemorgen. Dorothy. Hi. Ja. Vous entrez, mais le jardin, c'est pas grand-chose en ce moment. Hein?
Non, mais on peut voir qu'il y a une bonne structure dans le jardin, aussi, pendant l'hiver.
Vous habitez toute la maison, madame?
Oui. Vous voulez voir le premier étage, peut-être?
C'est surtout pour les jardins.
Pour avoir une mieux vue sur le jardin?
Oh, ben, si vous permettez.
Oui? Excusez-moi, j'ai un peu de désordre en ce moment, parce que j'ai pris le petit déjeuner.
Je ne veux pas dire.
Là, c'est dommage, vous voyez, c'est... Où est dat?
Un trellis. Dorothy Baines.
Trellis, yeah. Quelque chose ouvert. Et je voudrais aussi à l'autre côté, mais le voisin, il ne voudrait pas. Alors, c'est dommage.
Donc, vous avez une palissade qui vous cache les autres jardins d'un côté.
C'est dommage, ça c'est beaucoup plus joli parce que c'est un jardin tout à fait petit. Hein.
Oui, oh, ça fait quand même 6 ou 7 mètres de large sur une bonne vingtaine, trentaine.
Oui, pour Amsterdam, c'est bien, oui.
Vraiment, le contraste entre tous les bruits hein, du Vijzerstraat avec le tram, toutes les voitures, 50 mètres plus, et c'est complètement tranquille, il n'y a pas de bruit. Hein.
Oui. Je vous montre un haut, ça peut être une bonne idée. Oui, je mets la lumière. Là, vous voyez à gauche, comme c'était ici. Vous voyez tous les bâtiments là.
C'est des ateliers ou...
Oui.
Et vous ouvrez votre jardin en juin?
Oui, toujours, oui, bien sûr.
Et vous voyez arriver combien de personnes chez vous dans le week-end?
Dans le week-end, je pense qu'il y a 1500 per dag.
Il y a 1500
par jour.
Ah oui.
C'est beaucoup, hein. Amsterdam, c'est une petite ville, mais quand même. Et là, vous pouvez regarder, c'est aucun problème. Ici, j'ai fait un petit cabinet avec des peintures de Jan Sluiters, qui est en Hollande, il est très fameux. Ça, c'est ma mère, et ça, c'est moi.
C'est un portrait de votre mère?
Oui.
Par
oui,
Jan Sluiters.
Pardon? Jan Sluiters, oui.
So whenever I don't really care.
Dans les immeubles tels que celui où nous sommes, Pierre-Pascal Bruno, il existe ce qu'on appelle des Achtertuinen.
Oui, tout à fait. Oui, c'est d'ailleurs assez amusant parce que le souterrain, on descend 3-4 marches et en général, le jardin est au niveau du sous, donc à peu près, je dirais, donc 1 mètre, 80 cm, 1 mètre en dessous du niveau du quai, puisque là, c'est un quai hein, sur ce beau canal.
Donc, qu'est-ce que c'est qu'un Achtertuin?
Alors, Achtertuin, donc Achter, ça veut dire derrière. T'as un jardin, donc on retrouve le backyard, puisque beaucoup de maisons, notamment à New York, puisque New York c'était la nouvelle Amsterdam, hein, Peter Stuyvesant, on retrouve exactement, notamment dans Brooklyn, qui était Brooklyn, on retrouve exactement ce type de maison. Un peu surélevé, les escaliers, une forme de souterrain, et puis le jardin, le Achtertuin. Et il y a aussi le Achterhaus. Le principe était qu'effectivement, dans beaucoup de maisons, Vous voyez, la ville était construite de canal à canal, donc il y avait toutes les maisons qui étaient le long des canaux. Donc il y avait cette notion de Arthur Town et cette notion de Arthur House, donc une petite maison derrière la grande maison. Mais la partie la plus sympa, c'est ce qu'on appelle le stoop, c'est-à-dire ce petit escalier qui mène au bel étage. Et vous verrez que la plupart des stoops donc, ont une sorte de petit banc comme ça. Et c'est très sympa en fin d'après-midi de se prendre un verre de vin blanc, un bon bouquin et de regarder passer les bateaux.
Et ça, c'est donc côté canal.
Côté canal, oui.
Vous vous installez dans la rue,
oui,
quoi,
sur votre quai. Oui, tout le monde s'installe vraiment dès qu'il y a un rayon de soleil, qui en ce moment n'est pas très fréquent, mais dès qu'il y a un rayon de soleil, les gens sont soit sur leur bateau, alors tout ce qui flotte sort, et tout le monde se balade à 1 ou 2 km/h sur son petit bateau, sur les canaux. Quoi. Et les gens sont sur leur devant la maison, les commerçants sortent leur fauteuil, on s'assoit, et puis on regarde les gens passer. Quoi. Et mon chien, Zelda, voilà.
Willem van Loon a été l'un des fondateurs en 1602 de la Compagnie hollandaise des Indes orientales, qui durant 2 siècles a fait des Pays-Bas un pays puissant et riche. La maison van Loon est un musée depuis les années 1970 sur le Keizersgracht numéro 672. Philippa van Loon.
C'est très agréable de se promener en bateau. Je dirais que ça, c'est vraiment une partie de la ville que j'adore. C'est de.
Vous en avez un ?
Oui, on a un petit bateau, oui. Un vieux petit truc en fer. On a peint les couleurs de la famille. Et, si, ça c'est
il
vraiment...
Il est amarré sur le Keizersgracht.
Ben, il était, mais comme ils ont nettoyé le canal, on l'a mis 2 canals plus loin. Mais on va le ramener justement ce week-end, parce que voilà, normalement il est devant la maison, oui.
Et de temps en temps, ça vous prend, vous prenez les...
Oui, alors je suis un peu en colère avec mon mari parce qu'il m'a acheté un énorme moteur que je ne peux pas soulever. Donc il faut que je l'attende pour qu'il puisse le mettre sur le bateau pour pouvoir le prendre. Donc il va falloir qu'on avise, là, qu'on trouve une solution.
Mais vous faites quel parcours ?
On se balade.
C'est tout à fait possible de quitter la ville.
Oui,
si vous...
c'est génial. Vous allez sur la Amstel, là, vous allez sur la rivière, vous sortez de la ville en un quart d'heure, une minute, il y a les prés, les vaches, voilà. On peut s'arrêter, il y a plein de bistrots, c'est tout organisé pour, à n'importe quel endroit, on peut débarquer et aller boire un coup et remonter. Et... Ça, c'est génial en Hollande, c'est vraiment génial. On peut, enfin, que ce soit en bateau ou en patin à glace, quand c'est gelé, on peut carrément... communiquer entre toutes les villes, tous les villages, vous pouvez aller dans le nord, partout. Cette Hollande où tout le monde se met tout d'un coup sur la glace. C'est une tradition, on sort les canapés, on sort la radio, la télé, la marmite pour faire la soupe, le chocolat chaud. Tout se passe sur la glace et ça devient très convivial. Et voilà, les enfants apprennent à patiner, les grandes personnes patinent, les amoureux patinent. Mais c'est quand même assez dangereux, il faut faire très attention parce que sous les ponts, ça gèle beaucoup moins.
Oui, et parce que c'est protégé.
C'est protégé, donc beaucoup de gens passent quand même sous les ponts, ce qui n'est pas recommandé. Mais bon, quand on veut se balader, voilà, on risque ça. Et moi, j'ai vu des gens qui sont quand même passés à travers la glace, donc c'est pas génial, quoi. Maintenant, oui. je fais très attention.
Il y a beaucoup de gens d'Amsterdam qui ont un bateau ?
Oui, je pense qu'il y en a pas mal, oui. Voilà, et il y en a qui disent « Ah non, j'en veux pas » parce que le problème d'avoir un bateau, à part l'entretien et tout ça, c'est que malheureusement, on trouve souvent des gens qui, qui dorment dessus, qui laissent quelques traces, n'est-ce pas ? Et aussi des problèmes de seringues, etc. Donc ça, c'est beaucoup moins rigolo. Mais voilà.
Ça, c'est pas un peu dissipé, la prévalence de la toxicomanie à Amsterdam ?
Oui, moi, je trouve que ça a beaucoup changé. J'ai grandi ici dans les années 70, 80, c'était autre chose.
Parfois, la ville d'hiver se réveille, poudrée de givre. À regarder les efflorescences blanches des ormes, sur Keizersgracht, Prinsengracht, là où se sont épanouis des sujets les plus élancés, on a, tant l'unité est grande dans l'absence de couleurs, du ciel à l'eau, des maisons aux parois des canaux, l'étrange spectacle d'une gravure négative. Toute la précision, l'incisivité du trait, mais en blanc. La perspective de Leinbahnsrath, tout à coup, déconcerte l'œil. Il faut quelques instants pour trouver l'erreur. C'est le seul canal qui soit bordé de platanes. Et tout le lieu est métamorphosé par ses silhouettes plus rondes, plus larges, par ses branches qui retombent au lieu de s'élancer vers le ciel. Plus d'aménité, comme une cordialité sur ses quais. Mais la ville ne gagne rien à se départir de sa rigueur. Et les ormes pleins de réserves, au bois sombre, lui sont mieux accordés. Claude Dourguin, La lumière des villes.
C'est faire partie de l'élite que d'habiter sur un bateau à Amsterdam?
Absolument niet, nee.
Pas du tout,
nee,
pas du tout,
een,
non.
Matthijs Rompert, philosophe et poète.
Een bepaalde laag van de samenleving.
Non, c'est vraiment une certaine couche de la société qui est plutôt populaire. Habiter sur un bateau n'est pas du tout pour l'élite. C'est à peu près comme vivre dans une roulotte.
C'est quelque chose qui vous tenterait?
Ja, er heerst wel een bepaalde romantiek natuurlijk in zo dicht bij het water.
Il y a bien sûr un certain romantisme à vivre si proche de l'eau.
Dat trekt me wel. Misschien.
Ça m'attire beaucoup. Peut-être que ça se produira.
Vous êtes né ici, Matthijs Rompert?
Ja,
oui, je suis né en 1988 à Amsterdam.
Geboren, niet,
mais pas dans ce quartier. Je suis né dans Oud-West.
Amsterdam est un petit monde qui se suffit à soi-même.
Ja, dat klopt. Het is allemaal
oui,
erg in zichzelf besloten. Iedereen
c'est un peu un cercle
iedereen.
Fermé.
Het is een groot dorp.
Tout le monde connaît tout le monde.
Nou, vooral
c'est
afgesloten van de rest van Nederland.
Très à l'écart
niet
du reste des Pays-Bas.
Buitenlanders. We zijn
c'est ouvert aux étrangers.
Buitenlanders.
Dat is les étrangers sont les bienvenus.
Dat is ook
nous sommes comme ça aussi.
Comment ça s'appelle en néerlandais, la poule d'eau?
Meerkoet. Ça s'appelle Meerkoet, mais en Amsterdam, on appelle ça drijfzeis. C'est un nom spécifiquement pour Amsterdam. Drijfzeis.
Qu'est-ce qu'il veut dire?
Dat is, het komt uit het Jiddisch.
Ça vient du Yiddish.
Il
y avait beaucoup de juifs dans la ville avant la Deuxième Guerre mondiale. Et la langue d'Amsterdam a beaucoup emprunté au Yiddish. Mais je ne peux pas vraiment donner la traduction.
Il y a un surnom qui vient du Yiddish ou peut-être même de l'hébreu que parfois on appelle Amsterdam Mokum.
Mokum, ja.
Qu'est-ce que ça veut dire au juste?
Mokum betekent de stad.
Mokum signifie la ville. En yiddish. On peut s'imaginer qu'il disait
«
Tu m'accompagnes à la ville, Mokum ».
Et c'est affectueux?
Oui, bien sûr. Les Amsterdamois appellent Amsterdam Mokum pour dire leur ville, la ville, l'unique ville.
La seule ville.
L'unique. Oui, la ville, c'est Amsterdam, on le sait.
Le centre du monde.
Oui.
Voilà. On part par où?
Donc nous allons à gauche, on longe le Kaiserstraat. Les magasins ferment tôt. Donc 17h30, 18h, tout est clos. Il y a plein de petites
boutiques. Et on se met à table.
Et on se met à table, oui, oui, ça c'est vraiment un... Donc voilà, ça c'est la petite rue où il y a les galeries. De tableaux, les antiquaires et de plus en plus de restaurants. Donc c'est Spiegelstraat. Et donc il mène directement au Rijksmuseum, dont on voit les tours. Rijksmuseum, donc qui a été restauré, réouvert après 10 ans de travaux. Voilà.
Vous considérez que la rénovation est réussie?
Oui, globalement. Je trouve qu'il y a un peu trop de... Ils ont cédé à la mode de l'atrium. Donc il y a deux immenses espaces de part et d'autre. Je trouve qu'il y a un peu quand même de place perdue. Mais la circulation est agréable à l'intérieur. Beaucoup plus pratique. Mais ce qui est amusant, c'est que le Rijksmuseum est traversé par une rue... Donc il passe sous le Rijksmuseum, enfin à niveau, pas en souterrain, au niveau du sol.
Et il avait été question de récupérer cet espace, qui est un espace important. Il y a eu une levée de boucliers extrêmement forte.
Il n'y avait pas question.
Pas question, parce que les vélos doivent pouvoir continuer à passer à traverser le Rijksmuseum. Et donc, ils ont eu gain de cause, et les vélos traversent toujours le Rijksmuseum. Donc là, ce sont vraiment des très très vieilles maisons. On voit, alors ils ont gardé le principe de l'enseigne, etc. Assez marrant, et vous voyez que les maisons sont vraiment de guingois toutes. Vous voyez que certaines maisons penchent, et en fait, c'est pas uniquement parce qu'elles sont vieilles, mais aussi parce que tous les déménagements se font par le haut. Donc toutes les maisons ont cette sorte de poutre et une poulie, avec à l'intérieur un treuil, des multiplications, et du fait de ce système de montée et de descente, l'inclinaison de la maison est importante de façon à ce que les meubles, etc., ne se balancent pas contre la façade. Donc voilà le Prinsenhart. Oui. De l'autre côté, exactement à l'opposé, il y a ce qu'on appelle le café brun, le Brian Café, qui est le café, l'équivalent de nous, de nos cafés parisiens. Et qui sont ouverts, eux, assez tard, où on boit donc le Rebond Coffee, donc le café qui est très proche du café américain, donc très allongé, et des bières, et ils servent ce qu'on appelle les croquettes, qui est le plat national ici, vous avez peut-être déjà goûté, et les bitterballs, qui sont des croquettes rondes, voilà.
Et on dit café brun, je crois, parce qu'on avait l'habitude de jamais lessiver les murs,
et on fumait beaucoup, et donc
les goudrons imprégnaient les...
C'est toujours les pas très propre, si vous voulez. Mais ça a beaucoup de cachet, beaucoup de charme. Et il y en a un autre très sympa près de la maison de Rembrandt. Ça, il faut voir cette maison qui est assez incroyable. Ils ont reconstitué la maison qu'il a habité assez peu de temps. Et en fait, à sa succès, Rembrandt a fait faillite de nombreuses fois, mais il a fait faillite précisément au moment où il avait cette maison. Et grâce à l'inventaire de la faillite qui a été fait, donc on avait connaissance de l'intégralité de tous les objets et meubles, qui étaient, les tableaux, bien sûr, les dessins, qui étaient dans sa maison. Et donc la maison de Rembrandt a été reconstituée à partir de cet inventaire, en s'inspirant également de certains tableaux qu'il a fait.
Des inventaires dressés par des huissiers,
par des huissiers, bien sûr, par le tribunal. Il a fait faillite, donc on a liquidé véritablement tous ses actifs. Et c'est assez émouvant, et on ressent véritablement, on est transporté quelques siècles en arrière, et c'est ce qui reste à peu près du quartier juif qui a été détruit en grande partie pendant la guerre, et puis par les maisons ayant été abandonnées, sont tombées en désuétude. Il ne reste pas grand-chose, sauf cette maison, et puis une des maisons des banquiers Pinto, donc des banquiers portugais, avec un très beau plafond.
Philippa Van Loon, il faudrait se pencher sur un plan d'Amsterdam, mais la structure est très connue.
Oui.
Cette demi-lune avec des canaux concentriques,
oui,
dont les trois principaux sont Herrenhart,
oui,
Kaiserhart,
oui,
où nous sommes,
et Prinsenhart.
Et Prinsenhart.
Et puis il y a le Singo aussi, le plus petit, qui est au centre. Le Prinsenhart, c'est le canal des princes. Le Kaiserhart, celui-là, c'est le canal des empereurs. Et le Herrenhart, c'est le canal des gentilshommes, on va dire. Et le Singo, oui, je pense que c'est simplement un cercle, quoi.
Et il y a une hiérarchie de prestige entre ces trois principaux canaux?
Alors, on appelle une partie du canal du Herrenhart, qui fait un tournant. On appelle ça la Gouden Bocht. Le tournant en or. Donc apparemment, les maisons là-bas étaient les plus belles, les gens les plus fortunés vivaient là. Et c'était entre autres la maison d'origine des Van Loon est là-bas.
Et la famille s'est installée ici au 19e.
Exact, oui, exact. Ça a été acheté pour un mariage de mes arrière-grands-parents. Et donc, cette maison est seulement dans la famille depuis 100 et quelques années, 120, 130 ans, oui. Seulement.
Je vais vous poser une question un peu idiote,
oui, oui,
et un peu française aussi. Est-ce que, avec la puissance financière que vous représentez, vous permettez de sortir en ville comme ça
maintenant?
Oui.
Oui, parce que la puissance financière qu'on avait n'est pas forcément celle qu'on a toujours. Les temps sont révolus. Hein. Je vous assure que je n'ai pas de jet privé ni rien. Enfin, voilà, on parle beaucoup du passé ici. C'est pas tellement le présent. Donc je n'ai absolument aucune crainte de ce côté-là. Je me balade en vélo et en tram, etc. Je n'ai même pas de voiture, pour vous dire la vérité, parce que c'est entre autres trop compliqué pour se garer ici à Amsterdam. Donc,
vous êtes une Hollandaise comme une autre.
Voilà, je suis une Hollandaise comme une autre, c'est sûr. Bon, les gens, ils sont toujours intéressés par l'histoire de la famille. Et, bon, on organise pas mal d'événements ici. Et, voilà, c'est un endroit que les gens aiment beaucoup. Donc de ce côté-là, je suis un peu connue de ce côté-là, si vous voulez, dans la vie culturelle. Voilà.
Est-ce que vous pourriez nous aider à comprendre une notion assez indistincte, Pierre-Pascal Bruno, qui tourne autour de l'adjectif
Gezellig? Ah, le Gezellig. C'est un mot
capital.
Oui, essentiel et qui recouvre beaucoup de choses, mais qui est à la fois la convivialité, le bien-être, la sympathie, l'empathie, et qui est en tout état de cause lié à un groupe. Bon, il n'y a pas de Gezellig tout seul. Ça n'existe pas. Donc c'est l'idée de partager et d'être bien et d'avoir une empathie réelle entre plusieurs personnes. Et ça, c'est alors, on le met presque à toutes les sauces, on en parle tout le temps. Et c'est important, effectivement.
Gezellig, forcément Gezellig. Avec Dorothy Baines, propriétaire sur le Prinsenhart, Rhys Brouwer, amoureux d'Amsterdam, Pierre-Pascal Bruno, libraire, Odile Chenal, ancienne directrice de la Fondation européenne pour la culture, Matthijs Rampertz, philosophe et poète, Tonko Hever, conservateur du musée Van Loon, Lisa Hopp, étudiante, Roberta Petzold, comédienne, Philippa Van Loon, du musée Van Loon, Rudy Wester, ancienne directrice de l'Institut néerlandais à Paris. Texte lu par Nathalie Duong. Traduction, Sabrina Lamèche et Lisa Hopp. Doublage, Lydia Benitrak et Cyril Baer. Merci à Thalys, à Pascal Fila et Jean-Philippe Arnoux de l'Institut français d'Amsterdam, à Roger Streiland de l'Office néerlandais du tourisme à Paris, et tout particulièrement à Claudia Zeller. Coordination Catherine Libert, documentation Catherine Ahmed, prise de son Georges Thau, mixage Bernard Laniel. Gezellig, forcément Gezellig. Villemonde, Amsterdam, Rafik Zénine, Olivier Chaumel.
Les voyages continuent sur le site internet franceculture.fr où vous pouvez réécouter éternellement en podcast Villemonde, Amsterdam et toutes nos escales à travers le monde. Âme d'Amsterdam, seconde escale, dimanche prochain 10 avril à 15h.